France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ces nouvelles images choc dévoilées hier soir par L214. L'association de défense des animaux et de la cause végane a tourné des vidéos dans un centre de recherche, en nutrition animale. Le site se trouve dans la Sarthe. Il appartient au leader français du marché Sanders. Et sur les images, on voit notamment des vaches dont l'estomac a été perforé afin d'étudier leur digestion. Cochons, lapins, poulets sont également utilisés pour des recherches afin d'améliorer leur productivité. L214 précise qu'elle va porter plainte contre l'entreprise Sanders car la législation en France ne permet pas les expérimentations sur les animaux, si ce n'est en cas de stricte nécessité. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 18 octobre prochain dans le second volet du procès des époux Balkany. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, est suspecté de blanchiment à grande échelle. S'il a concédé quelques fautes, il a toujours nié s'être fait offrir notamment un luxueux riad au Maroc. Lui sera bientôt sur le banc des prévenus et c'est une première sous la Ve République. Nicolas Sarkozy, ancien président, sera renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Ce procès pour corruption de l'ancien chef d'État devrait se tenir dans les prochains mois. Gauche et droite ensemble contre la privatisation d'aéroports de Paris. 250 personnes se sont réunies hier à Saint-Denis. Pour l'instant, l'appel à signature lancé officiellement la semaine dernière a reçu près de 200 000 signatures. Pour qu'il y ait un référendum, il en faut plus de 4,5 millions d'ici 9 mois. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce matin en Corée du Nord. Il y effectue une rare visite d'État et rencontrera le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il s'agit de la première visite d'un président chinois en Corée du Nord depuis 2005. Enfin, notons que le débat sur les nominations aux grands postes européens va dominer aujourd'hui et demain le Conseil européen de Bruxelles. Conseil lors duquel le président Donald Tusk espère que les 28 vont s'accorder sur les noms de son successeur, ainsi que sur les noms des prochains présidents de la Commission, de la Banque centrale et du Haut représentant pour les affaires étrangères.
France Culture, partenaire de la nouvelle revue Tintin, c'est l'aventure, pour rêver, s'évader et découvrir le monde d'aujourd'hui. Avec Tintin et Géo, explorez le 21e siècle en reportage et en images. Dans le numéro 1, un dossier Objectif Lune, un entretien avec Antoine de Maximi et une bande dessinée inédite à collectionner. Et découvrez aussi les aventures de Tintin en podcast sur franceculture.fr. Tintin, c'est l'aventure, un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Et c'est tous les jeudis, la fête de la musique dans le réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, le réveil culturel, tous les matins de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, en passant par le podcast à votre disposition sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique, Benjamin Vignal. La musique adoucit-elle vraiment les mœurs ? Comme on le dit depuis Pythagore, c'est-à-dire au moins depuis la Grèce antique. Et peut-on soigner réellement des malades de nouvelles pathologies ou des nouvelles addictions avec de la musique? Nous avons posé ces questions à Edith Lecourt, qui est musicothérapeute et qui nous a proposé de passer un jour à l'émission pour tout nous expliquer. Eh bien, ça tombe bien, à la veille de la grande fête de la musique, elle sort un livre aux éditions Erol, La musicothérapie. Edith Lecourt est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Edith Lecourt.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cette flûte amérindienne?
J'étais en train de noter, prendre des notes sur ce que ça fait, parce que je pensais effectivement réagir à ça. Bon, je pense que c'est classiquement le type de musique qu'on fait passer chez nous pour apaiser, pour détendre, apaiser surtout. Je me disais que ça nous mettait dans un climat assez agréable, confortable, sécurisant pour cette émission.
Voilà, pour commencer l'émission, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions Erol, La musicothérapie, découvrir les vertus thérapeutiques de la musique. Et ce qu'on apprend très vite, c'est que la musicothérapie a beaucoup évolué ces 50 dernières années, même si elle remonte, à la nuit des temps. Ou presque.
Oui, tout à fait. Des temps et des cultures, des civilisations. Elle a beaucoup évolué, je dirais plus au niveau de sa mise en forme, de sa professionnalisation, de son organisation sur le plan international, que sur les pratiques, enfin. Disons que ce qui était dit par les anciens existe toujours et est toujours pratiqué. Ça a été pratiqué dans toutes les médecines traditionnelles. Utiliser la musique, comme vous l'avez dit, pour déstresser, pour traiter les dépressions, pour stimuler les apathiques, tout ça, en fait, n'a pas beaucoup changé. Alors, c'est vrai qu'on a créé des méthodes, mais ce qui a le plus évolué, c'est vraiment l'organisation d'une profession. C'était quelque chose qui était fait naturellement dans toutes les cultures, qui est encore fait par exemple en Inde. On a une conception de la thérapie musicale sans forcément aller chercher des musicothérapeutes, parce qu'il y a déjà toute une tradition de connaissances, tel mode produit telle chose, etc. Il s'appuie encore là-dessus. Mais de notre côté, c'est la création. Vous savez, on fait des professions pour toute pratique. Et donc, surtout en France, on a mis très longtemps à accepter que ça devienne une profession, en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, et c'est ce qui a permis, c'est aussi l'organisation internationale, c'est-à-dire que la musicothérapie s'est organisée dans tous les pays un peu de façon simultanée, enfin à partir des années 70. Les années 70-80, ça a été vraiment une organisation un peu dans tous les pays.
Mais concrètement, Edith Lecourt, vous qui êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste, musicienne et musicothérapeute, comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire, vous recevez des patients qu'on n'arrive pas à soigner avec des traitements médicaux et ils viennent vous voir en espérant trouver chez vous, quoi, une playlist à la place d'une ordonnance pour qu'ils aillent mieux?
Alors là, on a lutté contre ça jusqu'à maintenant.
Oui. Hein, parce qu'on, c'est pas un médicament. Peu la caricature, ce que je vous dis.
Oui, c'est terrible.
Mais explique-nous comment ça se passe.
C'est terrible parce qu'on voudrait conditionner, et c'est vrai qu'on peut. Alors, on peut très facilement conditionner les gens avec la musique. Et ça se fait de façon commerciale dans les magasins et dans les musiques.
Donc, pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur, pour le pire. Ça s'est toujours fait. Ça se fait dans les armées. Ça se fait, dans certaines religions. Enfin, voilà. Donc, il y a tout cet aspect conditionnement. Pour le conditionnement, effectivement, c'est des musiques typées qu'on va répéter et qu'on va bien nous incruster de telle façon que nos comportements suivent. Parce que là, le pouvoir de la musique, c'est le pouvoir sur le corps. Et sur le rythme cardiaque, sur le rythme respiratoire. Donc, une fois que vous avez bien incrusté ça, c'est sûr que ça marche, entre guillemets, quoi. Alors, c'est pas du tout ça qu'on veut, nous, en musicothérapie.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, un cabinet d'une musicothérapeute comme vous, Edith Lecourt?
Moi, j'ai pas de cabinet.
Alors, comment ça se passe?
Oui, parce que moi, j'ai travaillé avec l'université jusqu'à maintenant. Donc, mais j'ai reçu quand même déjà des patients, mais de façon limitée, on va dire. Comment ça se passe? De toute façon, il y a d'abord pour nous à connaître la personne. Et la connaître différemment que moi, je fais aussi des psychothérapies, la psychanalyse. C'est pas la même forme de connaissance. C'est-à-dire que c'est son histoire sonore et musicale à laquelle on va s'intéresser. Et ça, c'est que ça crée une relation tout à fait différente que la relation de psychiatre ou de psychologue traditionnel. Donc, on crée cet intérêt commun pour le sonore, pour la musique. On part de là. Et à partir de là, donc, on a ce qu'on appelle un bilan psychomusical, qui est de mettre en situation la personne.
Psychomusical. C'est-à-dire.
En fait, on recherche quelques données qui nous permettent, nous, de faire une proposition de musicothérapie. Parce que le problème, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas savoir habituellement, c'est que c'est très compliqué, c'est très complexe. La musique, c'est très complexe. Et l'être humain est très complexe. Donc, voilà, on doit jouer avec ça. Donc, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas parce que vous me dites que vous êtes déprimé ou que vous êtes hyperactif ou quoi que je vais savoir, voilà, avoir mon programme, mon protocole et que ça va marcher. Donc, pour nous, votre expérience musicale, c'est toute votre histoire musicale. Et donc, on peut pas passer des heures, enfin, on pourrait, mais dans un autre contexte, c'est pas, mais.
C'est une manière pour connaître le patient, si c'est ça, ils disent le cours.
Une manière de connaître
donc
le
patient. Donc la musicothérapie, c'est comme tous les arts-thérapies, c'est une manière aussi d'installer un dialogue et de mieux connaître.
Voilà. Alors le bilan, c'est pour pouvoir engager ce dialogue. Et donc, c'est l'écoute de quelques extraits de morceaux de musique très variés pour savoir un peu comment vous réagissez à la musique. Et puis surtout aussi l'offre d'un certain nombre d'instruments de musique à disposition. Comment vous allez approcher ces instruments? Et qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, ces éléments-là, en plus de l'entretien qu'on va avoir sur l'histoire sonore musicale, ces éléments-là vont nous donner vraiment une possibilité de démarrer une séance après un programme. Pas seulement une séance, parce qu'il va falloir développer les séances, donc faire une séance d'essai, ok. Mais en fait, il va falloir faire une proposition à moyen ou long terme. Donc il faut avoir une idée de vers où on va avec la musique.
Donc faire parler les patients avec le choix des instruments, le matériel instrumental utile en musicothérapie est très bien développé dans votre livre et dites le cours. Mais quand on souffre d'une maladie, quand on a mal, que peut la musique ?
Alors, ça dépend du type de mal. Si c'est physique, on utilise la musique pour l'analgésie. C'est-à-dire qu'elle remplace pas l'anesthésie, elle remplace pas les médicaments, mais elle peut limiter beaucoup l'utilisation de ces médicaments et aider fortement et moralement et physiquement. Donc ça, ce sont des protocoles plus particuliers, je dirais, parce que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus simple. On agit sur quelques paramètres, avec quelques paramètres musicaux, comme le rythme, comme...
Mais c'est un programme qui a été fait scientifiquement, comme avec des tests, comme on le fait avec des molécules, avec des médicaments, avec des antibiotiques?
Il y a actuellement, effectivement, ce type de pratique, avec une méthode précise, un protocole. Pour être, voilà, un protocole avec quand même quelque chose de musique, c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes musiques qu'on va passer. Il y a plusieurs possibilités de bandes musicales, on va dire. Hein. Mais c'est quand même, là, ça rentre dans un protocole. C'est pas mal utilisé à Montpellier actuellement. Il y a cette possibilité-là. Mais après, bon, ça, c'est quand même limité à une action sur la douleur, ce qui est très important. Voilà. Après, nous, les pratiques sont surtout d'ordre psychologique, psychiatrique. Donc là, c'est beaucoup plus ambitieux et c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce qu'on obtient des résultats, Edith Lecourt, probants?
Bah, écoutez, bon, j'aurais pas passé 40 années de ma vie à l'enseigner s'il y avait aucun résultat. Alors, probant, c'est ça. Qu'est-ce qui fait preuve pour vous? Qu'est-ce qui fait preuve pour le public? Qu'est-ce qui fait preuve? Pour la personne qui souffre, ce qui fait preuve, c'est que, à sortir de la séance, elle se sent mieux et qu'elle revienne la fois suivante, qu'elle se sente encore mieux et ça se passe comme ça. Mais ça, sur le plan scientifique, c'est insuffisant, ça marche pas. Et comme il y a énormément de paramètres, musicaux et psychologiques et physiques en même temps, donc c'est très difficile, on peut pas mettre tous les patients dans des boîtes pour, pour avoir tous ces paramètres, donc c'est très difficile d'avoir ces fameuses preuves exceptionnelles qu'on attend.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
qui brûlait ma vie. Aux quatre coins des nuits qui marchaient sans but. Au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Pour moi la musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié.
C'était en 1967, Nicoletta, la musique, pour avoir le bonheur, les amis, l'amour. Je suis avec Edith Lecourt, qui est musicothérapeute, à l'occasion de la sortie aux éditions Erol de son ouvrage pour découvrir les vertus thérapeutiques de la musique, avec des questionnaires à la fin, mais surtout beaucoup de témoignages. Et je me suis rendu compte que dans votre pratique, Edith Lecourt, vous utilisez beaucoup la musique classique et rarement de la chanson populaire. C'est pour ça que je vous ai programmé Nicoletta.
D'accord. Oui. Alors, la chanson populaire, je vous rassure, est quand même très utilisée. En fait, toutes les musiques sont utilisables en musicothérapie. Bien sûr, on peut pas tester toutes les musiques. Mais à partir de là, par exemple, la question là du chant, ce qu'on vient d'entendre, cette chanson. Alors, déjà, le fait de chanter, c'est vrai que ça aide beaucoup, on l'utilise beaucoup en musicothérapie, puis les chanteurs l'utilisent pour eux-mêmes. Bon, mais le chant, la voix, à l'écoute, c'est très difficile à savoir comment l'autre va réagir, parce que c'est quelque chose de très intime, la voix, et que on a des réactions très fortes à l'écoute de voix. C'est-à-dire, il y a des voix qu'on adore, et il y a d'autres qu'on supporte pas du tout. Donc, pour pouvoir choisir pour le patient, il faut déjà bien le connaître pour trouver les voix qui vont pouvoir, effectivement, bon, s'adresser à lui.
Et de voir, de tester quel effet a la musique ou les voix ou les chansons sur le patient. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel scientifique aujourd'hui qu'on est très avancé sur le plan technologique? Et dites le cours, où en sont les recherches autour de la musicothérapie?
Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup avancé au niveau de l'organisation, de la professionnalisation, puisqu'il y a un diplôme universitaire maintenant, un master de musicothérapie. Mais on a aussi beaucoup avancé, et ça, indépendamment un peu des musicothérapeutes, je dirais, c'est du côté de la neurologie. Et la neurologie a découvert ce qu'on avait observé depuis très longtemps dans la vie quotidienne avec les patients, c'est que la musique a des effets globaux sur le fonctionnement cérébral, pas seulement sur une partie du cerveau, mais en fait, elle est présente et donc elle a des effets sur toutes sortes de troubles psychiques, mais aussi sur des lésions cérébrales, par exemple. Pas qu'elle va guérir les lésions cérébrales, mais elle va permettre de faire une compensation avec d'autres parties du cerveau. Alors ça, c'est des découvertes beaucoup plus récentes, et du coup, la recherche en neurologie utilise beaucoup de musique pour éclairer le fonctionnement cérébral. Toutes les musiques. Donc après, c'est vraiment de trouver ce qui va faire sens pour le patient. Suivant ce qu'il a écouté dans son enfance, suivant ses goûts personnels, suivant l'état dans lequel il est à ce moment précis.
Est-ce que écouter de la mauvaise musique nuit à la santé?
Il n'y a pas de mauvaise musique.
Donc il n'y a pas de mauvaise... Ah bah si, hein. Quand même, mais Edith Lecourt, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de mauvaise musique?
Parce qu'il y a un rapport à la musique. Vous avez votre conception de la musique, j'ai la mienne. Est-ce que certains bruits pour vous sont musicaux ou pas? À partir de quel moment ça fait musique pour vous? Alors ça, moi, je l'ai étudié très précisément dans les expériences que je fais d'improvisation en groupe, où tout est enregistré, donc ça me permet de reprendre et d'analyser, etc. Et puis de voir à quel moment les gens qui improvisent en groupe estiment qu'ils ont fait la musique. Donc à ce moment-là, je sais leur définition de la musique. Mais certains, c'est à partir simplement de bruit, de rythme, etc. D'autres, il faut attendre que des sons subtils pour que, voilà, qu'ils perçoivent la musique. Mais ça, c'est très subjectif.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme...
Non, moi, je joue de la clarinette. Ouais. Et j'ai un groupe d'improvisation qui s'appelle le GLAM, le groupe de libre association musicale. Et donc, c'est là un petit peu que je me ressource.
Est-ce que la musicothérapie peut s'appliquer aux sourds?
Oui. Oui, parce que elle a la chance, enfin, la musique a un spectre sonore très, très, très large. On estime toutes les musiques. Et puis aussi le volume sonore. Donc il y a les timbres et les volumes sonores qui vont permettre d'avoir accès pour certains sourds. Puisque les surdités sont de niveaux très différents. Donc ça a été utilisé beaucoup par un Danois, musicothérapeute danois qui s'est spécialisé là-dessus. Mais c'est Bang, il s'appelle, donc il avait un nom prédestiné. Ouais. Mais depuis, donc, des spécialistes qui travaillent avec les sourds utilisent aussi mais des instruments à forte résonance, par exemple, donc sur la rythmique, sur les résonances et certains timbres.
Qu'est-ce qui se passe quand la personne, le patient ou la patiente n'a aucun intérêt particulier pour le domaine des arts et encore moins pour la musique?
Alors pourquoi elle est venue nous voir? Ce sera intéressant de savoir pourquoi elle est venue voir un musicothérapeute. Alors peut-être sur le conseil de quelqu'un. Bon, la première chose, ça sera de... Parce que bon, ce qu'on dit sur la musique, c'est une chose. Mais on n'a pas forcément... conscience et la possibilité d'exprimer notre propre réaction à la musique. Donc c'est justement en le mettant en situation musicale qu'on va pouvoir, nous, savoir effectivement comment il réagit et surtout lui faire prendre conscience du positif de son rapport à la musique dont il n'a pas encore conscience.
Edith Lecourt, y a-t-il des bruits que vous trouvez vous-même musicaux?
Ah oui, beaucoup.
Par exemple?
Beaucoup, beaucoup. Ben, dans le métro, quand la porte claque, quand je monte les escaliers, c'est un rythme, quand...
Mais à contrario, est-ce qu'il y a des musiques que vous trouvez bruyantes?
Alors oui, oui, là c'est le problème des décibels. Parce que forcément, là c'est moins le problème de la musique que des décibels. Parce que là, cette musique peut être intéressante, mais elle est montée à un niveau qui fait mal aux oreilles. Là, on a un rapport physique direct qui peut être créer des pathologies de l'audition, dont on a de plus en plus des cas. Donc c'est l'usage qu'on en fait.
Alors justement, puisqu'on parle de l'usage qu'on en fait, aller à un concert, c'est aller pour écouter de la musique ou aller pour être réuni autour de la musique?
C'est une très bonne question. Parce que justement, moi, cette dimension groupale, c'est une de celles que j'ai développées, qui est très importante dans la musique. Parce que contrairement à la parole et ce dialogue qu'on a ensemble, si on le faisait en musique, on aurait l'impression de communiquer plus en le faisant simultanément. C'est une chance. Donc, la dimension du groupe est fondamentale dans la musique même si on peut faire un solo, bien sûr. Mais rencontrer, donc, alors là, il y a le groupe. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur le rapport du groupe. Mais la foule, c'est autre chose. Dans un concert, s'il y a plusieurs centaines de personnes, c'est bien sûr un rapport de foule. Et là, c'est sûr qu'on y va pour des fortes émotions, parce qu'on va être porté par l'émotion de la foule. Et on y va pour rechercher cette intensité émotionnelle.
Alors, que peuvent vos collègues, que pouvez-vous faire, vous, en tant que musicothérapeute, Edith Lecourt, vis-à-vis des nouvelles maladies ou des pathologies des temps présents, c'est-à-dire la maladie de Parkinson, c'est-à-dire Alzheimer? Est-ce que la musicothérapie peut faire quelque chose?
Alors, oui, vous avez cité des cas où, justement, la musicothérapie peut intervenir. Ce ne sont pas des maladies nouvelles, hein. Malheureusement, on les traîne. Mais c'est vrai qu'on essaie de les traiter plus précisément là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de de recherche actuelle sur le Parkinson et sur l'Alzheimer. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a eu beaucoup de recherches avec la musicothérapie. Donc effectivement, comme vous le demandiez tout à l'heure, avec des protocoles précis, etc.
Mais et avec des résultats ?
Avec de forts résultats. Alors pour le Parkinson, c'est un peu plus précis, c'est-à-dire que c'est par rapport, c'est plutôt à partir du rythme qu'on va ramener effectivement une régularité, une harmonie dans le comportement, qu'on va soutenir le comportement avec le rythme. Avec pour l'Alzheimer, l'Alzheimer nous a fait découvrir l'importance de la mémoire musicale, qui est beaucoup plus longue que la mémoire verbale et qui permet donc, même quand on a perdu la mémoire verbale, de continuer à mémoriser des situations et à pouvoir retrouver même des situations avec, grâce à la musique, en étant porté par l'enveloppe musicale qui nous rappelle un souvenir. On va retrouver le souvenir, on va pouvoir verbaliser le souvenir alors qu'on ne sait plus parler.
Et pour les stress contemporains, pour nos addictions nouvelles, que peut faire la musicothérapie ?
Contre le stress, c'est bien sûr cette musique qu'on a écoutée tout à l'heure, de la flûte, du souffle qui apaise, etc. On va utiliser tous ces éléments d'apaisement, de relaxation, etc. avec la musique. Ça, on a le rythme, on a la mélodie, on a beaucoup de choses. Contre les addictions, c'est une toute autre chose. Et des travaux anciens, déjà, et en Yougoslavie, on travaillait vraiment très précisément sur l'alcoolisme. Et donc là, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais ils avaient, il y a déjà dans les années 70, un programme très précis de thérapie par la musique contre l'addiction. Justement, je ne sais pas où ils en sont. Donc effectivement, le problème là, c'est de ne pas remplacer une addiction par une autre. Parce que celui qui est addict, il a besoin d'une compensation. Et vous direz, l'addiction à la musique, c'est pas trop grave. Voilà.
Donc ça peut même être une bénédiction, on est d'accord, Edith Lecourt.
Sous forme d'addiction, je dis pas. Mais en tout cas, bon, c'est plutôt ce remplacement par la musique, par quelque chose effectivement de plus intéressant.
Merci Edith Lecourt d'avoir accepté notre invitation pour ce réveil culturel spécial Fête de la musique. Un jour avant la Fête de la musique, moi par exemple, je ne suis pas musicothérapeute, mais quand j'ai le blues, quand on arrive à la fin d'une saison, je me prescris à moi-même du Caesarea Ivora et ça marche. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La musicothérapie, découvrir les vertus thérapeutiques de la musique. Ça vient de sortir aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et nous, nous on se retrouve demain pour parler de la bande dessinée comme tous les vendredis.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. Dans une grande villa de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca ?
Il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de force et de désir vont ébranler l'harmonie fragile qui règne dans la villa.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi, actuellement disponible, un partenariat France Culture. Tornera.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Et si l'économie de l'Antiquité pouvait éclairer notre présent ? Retour à l'âge du bronze dans Entendez-vous l'écho ? Nous allons explorer l'organisation économique et sociale des civilisations antiques. Les pharaons ont-ils créé l'État-providence ? Comment la Grèce est-elle devenue une telle puissance ? Le roi de Mésopotamie a-t-il inventé le droit de propriété ? Réponse, antique ou moderne, dans votre magazine d'économie.
Entendez-vous l'écho ? Du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Les malades sont déjà des milliers à recourir clandestinement au cannabis pour se soulager. Cet usage pourrait être légalisé en France. Un comité d'experts s'est en tout cas penché sur la question. Retour sur ses propositions dans un instant. Vous entendrez ensuite comment les élus, militants ou syndicalistes s'organisent pour mobiliser les citoyens contre la privatisation d'Aéroports de Paris. La campagne a été lancée officiellement hier. Dans ce journal encore, nous vous expliquerons le rôle des postes clés au sein de l'Union européenne. Après les élections, les 28 doivent se mettre d'accord sur des noms. Et puis, les descendants d'esclaves aux États-Unis seront-ils indemnisés? La question se pose en ce moment, en ce début de campagne présidentielle outre-Atlantique. Le cannabis thérapeutique sera-t-il bientôt expérimenté en France? On s'en approche en tout cas. Le comité d'experts mandaté par l'Agence du médicament il y a quelques mois vient de rendre public un projet d'expérimentation. Il préconise que certains médecins spécialistes volontaires puissent prescrire du cannabis thérapeutique. Un projet qui ouvre tout de même une porte et un espoir, surtout pour les malades, Véronique Julia.
L'expérimentation proposée, si elle se confirme, concernera 5 pathologies en particulier. Les douleurs liées aux nerfs, les épilepsies sévères et résistantes au traitement, les effets secondaires en cancérologie, les soins palliatifs et les troubles musculaires liés à la sclérose en plaques en particulier. Ce sont des médecins volontaires et formés spécifiquement qui pourront prescrire. Le cannabis sera administré sous forme orale ou inhalée, jamais sous forme de joint. Au bout de 2 ans, un bilan sera fait de l'expérimentation pour voir s'il y a lieu ou pas de généraliser cet usage médical. Des patients éventuellement concernés, on sait qu'il y en a des dizaines de milliers en France, mais l'expérimentation ne concernera qu'une poignée d'entre eux, 1500 à 3000 patients seulement. Fabienne Lopez préside l'association Principe Actif qui fédère ces patients. Évidemment, elle applaudit ce premier pas, mais regrette aussi qu'on avance trop lentement sur le dossier.
Le mettre en expérimentation, je trouve ça un peu douloureux quand même pour les patients, parce que ça veut dire que c'est 2 ans d'attente, quoi. Et qui va participer à l'expérimentation? La grande question aussi. Donc, on voit bien qu'il y a une porte qui s'est ouverte, mais c'est un peu timoré.
Autre critique, le nombre de maladies retenues pour l'expérimentation, trop limité d'après l'association qui aurait aimé qu'on y ajoute notamment les migraines ou la fibromyalgie. D'après les experts, le coût d'un traitement au cannabis revient à 10 voire 15 euros par jour. Si le ministère donne son feu vert, les premiers patients pourraient démarrer l'expérimentation dès le premier semestre 2020.
Et pour rappel, hier, plus de 70 personnalités, dont des anciennes têtes de liste aux européennes, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, toutes ont appelé les pouvoirs publics à agir vite. Au nom du pragmatisme, écrivent-elles dans une tribune. La photo était peu banale hier soir à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Devant près de 250 personnes, les députés Les Républicains Gilles Carrez et François Cornu-Gentil étaient aux côtés des élus La France Insoumise, Clémentine Autain et Éric Coquerel. Il y avait également Olivier Faure du PS et Fabien Roussel du PCF, tous réunis pour lancer la campagne contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ils ont 9 mois pour rassembler les 4 700 000 signatures nécessaires pour organiser ensuite un référendum. Elles sont recueillies, ces signatures, sur un site du gouvernement qui manque actuellement d'ergonomie. C'est ce qu'a reconnu en tout cas le ministère de l'Intérieur la semaine dernière. Une plateforme a donc été créée pour aider les citoyens désireux de signer. Présentation de cette plateforme avec l'historien et politologue Patrick Veil, présent hier à la soirée.
On va permettre aux gens d'avoir des badges ou des autocollants volontaires du référendum. Ils vont pouvoir se promener au bureau, dans le métro, sur les plages cet été, dans les marchés. Avec notre plateforme, ils seront aidés pour pouvoir aider eux-mêmes, des gens de leur famille, des voisins, des camarades de travail, à remplir le formulaire. Et voilà, le formulaire n'est pas facile à remplir. Il y a des gens qui se sont arrêtés d'essayer après avoir tenté plusieurs fois. Et on va, avec notre plateforme, aider les gens avec des arguments pourquoi demander le référendum et aussi une fiche technique sur comment remplir le formulaire sans être bloqué à un certain moment. Donc on va mettre à disposition de ceux qui le souhaitent des matériels pour qu'ils puissent devenir des militants de l'inscription pour le référendum.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg. Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Son dernier recours a été rejeté hier. La date du procès n'est pas encore arrêtée. EDF sera-t-elle divisée en deux? La direction doit présenter ce matin au syndicat ses pistes pour une refonte du groupe en profondeur. L'électricien public se débat avec une dette de 33 milliards d'euros et doit faire face également à un mur d'investissement de près de 100 milliards pour son parc nucléaire. Le projet proposé s'appelle Hercule. Il vise à découper EDF en 2 grandes filiales et à procéder à des privatisations partielles. Les syndicats y sont déjà opposés, Grégoire Lequelot.
Une dette de 33 milliards d'euros, un mur d'investissement de près de 100 milliards d'euros pour financer la rénovation du parc nucléaire. L'État a jugé nécessaire une restructuration d'EDF. Elle ne rimera pas avec destruction, jurait le PDG Jean-Bernard Lévy lors de l'Assemblée des actionnaires au mois de mai.
Il ne s'agit pas d'un démantèlement. Le groupe EDF restera un groupe intégré, ce sont les mots du président de la République. Mais cela n'interdit en rien de réfléchir à une organisation différente de nos activités.
Baptisé Hercule, le projet vise à diviser en deux les activités du groupe. Une première filiale avec le nucléaire, les grands barrages et les centrales thermiques. Elle serait 100% publique. La seconde filiale serait en partie privatisée avec les réseaux d'acheminement d'électricité, RTE, la distribution et les énergies renouvelables avec Enedis. Les syndicats dénoncent un plan qui offrirait les pépites rentables aux privés, tandis que la filiale publique supporterait les activités plus coûteuses. Alexandre Gria de la CFE-CGC Énergie.
La réorganisation que constitue le projet Hercule ne répond en aucun cas à la question de fond qui est la capacité d'EDF d'avoir les moyens d'investir pour assurer la pérennité du service public.
Ce matin, ce sont des syndicats sceptiques que Jean-Bernard Lévy tentera de convaincre. Il espère présenter son plan d'ici la rentrée au gouvernement.
L'association de défense des animaux et de la cause végane L214 dévoile une nouvelle vidéo ce matin. Les images ont été tournées dans le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale. Il se situe dans la Sarthe. On y voit notamment des vaches à hublots, des poulets tellement gros qu'ils arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes. L'association L214 annonce qu'elle va porter plainte. On les appelle les postes clés, des postes qui font l'objet d'âpres négociations entre pays européens réunis à Bruxelles aujourd'hui et demain. Le grand mercato a débuté avec les élections européennes le 26 mai dernier pour savoir qui prendra la présidence du Parlement, qui au Conseil européen et surtout qui à la tête de la Commission européenne. Ce dernier poste conditionne tous les autres, Louise Baudet.
Le président de la Commission de Bruxelles, un Premier ministre sous tutelle. Il pilote, c'est vrai, l'exécutif de l'Union, mais attention, les directives et décrets qu'il propose doivent être validés par le Parlement européen et les États membres, pouvoir partager et prérogatives plus limitées qu'on l'imagine. Les États membres, justement, vont eux aussi se choisir un représentant, président du Conseil européen, job là aussi à temps plein. Il est de toutes les négociations clés, crise de la dette, Brexit, migrants, et doit avant tout gérer les désaccords entre chefs d'État et de gouvernement. Des États souvent jaloux de leurs prérogatives, notamment en matière de politique étrangère, c'est tout le problème du haut représentant pour la politique extérieure de l'Union. Poste créé en 2009 afin de renforcer la voix de l'Europe à l'international, mais chacun tient à sa souveraineté et la diplomatie européenne n'est même pas mentionnée dans les traités. Les États qui ne sont toutefois pas les seuls à décider, les eurodéputés gagnent peu à peu en autorité et les bras de fer sont fréquents, d'où le rôle décisif du président du Parlement, quatrième poste clé pourvu lui début juillet.
Et pendant ce temps-là, Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Union européenne. Deux nouveaux tours de scrutin seront organisés aujourd'hui au sein du Parti conservateur britannique. Il s'agit toujours de déterminer les deux finalistes dans la course à la succession de Theresa May. Ces deux derniers candidats seront ensuite départagés par un vote postal, vote des 160 000 adhérents du parti. La campagne pour la présidentielle américaine de 2020 est lancée et avec elle les sujets polémiques, ça y est. Les États-Unis commémorent cette année par exemple le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans l'État de Virginie. Se pose la question de la possible indemnisation des descendants de ces esclaves. Hier, la Chambre des représentants en a débattu. Les faits ce matin avec notre correspondant Grégory Phillips.
En 1865, alors que la guerre de sécession vient de s'achever, Abraham Lincoln promet d'octroyer 40 acres de terrain et une mule à chacun des 4 millions d'esclaves noirs libérés, mais sa parole ne sera jamais respectée. Plus de 150 ans après, le débat sur l'indemnisation des descendants d'esclaves refait surface, porté notamment par l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui hier à la Chambre disait ceci. Il est impossible d'imaginer l'Amérique sans l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, une famille moyenne noire américaine est 10 fois moins riche qu'une famille blanche. Aujourd'hui, les femmes noires meurent au moment de l'accouchement 4 fois plus que les femmes blanches. Et bien sûr, dans ce pays de la liberté, il y a cette honte. Les descendants des esclaves forment la plus grande partie de la population carcérale. Plusieurs candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 soutiennent le projet, mais ne détaillent pas les mesures qu'ils prendraient pour le mettre en œuvre. 35 millions d'Afro-Américains pourraient être concernés et la mesure pourrait coûter jusqu'à 10 000 milliards de dollars selon le degré de compensation retenu. Dans un sondage réalisé en 2015, 52% des Noirs américains soutenaient ce projet, 89% des Blancs interrogés s'y opposaient et le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit hier que ce n'était pas une bonne idée de vouloir réparer des faits remontant à plus d'un siècle et demi.
Le temps de ce jeudi en France, il s'annonce orageux des Pyrénées jusqu'au nord-est, sur l'ouest du pays. Les conditions sont nettement plus calmes avec un ciel bien ensoleillé ce matin. Il fait 17 degrés à Nantes, 18 à Paris, 20 degrés à Bordeaux, 25 à Marseille. 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Hier Jacques, le texte porté par la députée Laetitia Avia visant à lutter contre la haine sur Internet était présenté à l'Assemblée nationale. Mmh. Et le débat est donc ouvert.
Oui. Et dans Le Monde, une tribune co-signée par plusieurs ministres, dont Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, défend ce projet de loi en évoquant quelques-unes de ses dispositions. L'introduction de la plainte en ligne, la spécialisation d'un parquet aux usages du numérique et la formation de ses juges aux problématiques spécifiques aux réseaux sociaux. Les signataires soulignent que seule la justice pourra effectivement permettre d'assurer l'équilibre entre liberté d'expression et sanction des abus de cette liberté, déjà prévue par la loi. Et c'est là que le bât blesse, car cette loi, c'est celle de 1881 sur la liberté de la presse, dont on envisage de sortir l'injure et la diffamation pour les inscrire dans le droit pénal commun. Comme le rappelle Jérôme Hourdeau dans Mediapart, ce texte fondateur a mis en place un régime spécifique permettant de protéger la liberté d'expression avec des garanties procédurales comme des délais de prescription plus courts ou encore l'interdiction de la détention provisoire. Le passage de ces infractions dans le code pénal permettrait notamment de faciliter les perquisitions ou encore les comparutions immédiates. Maître Christophe Bigot, avocat spécialisé en droit de la presse, rappelle que l'injure et la diffamation représentent 90% du contentieux et que les exclure de la loi de 1881 reviendraient à la vider de sa substance. Il y a déjà tout dans la loi, estime-t-il, et notamment une disposition à l'article 57 qui oblige normalement le juge à trancher dans un délai d'un mois. Mais elle ne peut pas être appliquée faute de moyens. Le risque serait aussi de créer une nouvelle bureaucratie de la censure, voire de privatiser le contrôle de la liberté d'expression en imposant notamment aux plateformes la mise en place de dispositifs de censure automatique. Or, les affaires d'injures et diffamation sont souvent complexes et méritent un traitement équilibré, difficilement compatible avec les algorithmes ou la comparution immédiate. Dans le Figaro Vox, François Sureau estime que si le but affiché par la proposition de loi est louable, elle risque de provoquer censure et autocensure sur tous les sujets de société qui font polémique. L'écrivain et avocat doute que la haine puisse constituer une notion juridique. Le législateur s'arroge désormais le droit de pénétrer dans les consciences et que celle-ci soit mal inspirée ne change rien à l'affaire. Cette idée simple que penser n'est pas agir, que dire n'est pas faire, qu'avant l'acte criminel, il n'y a rien, le cède par pan aux nécessités d'un contrôle social de plus en plus rigoureux. Sur la délégation de pouvoir du juge à des opérateurs privés pour assurer le contrôle des contenus haineux sur le web, François Sureau considère que dès lors que la fonction de l'État n'est plus de mettre en œuvre le projet des libertés, mais simplement d'accompagner les sentiments des groupes opposés qui s'affrontent dans l'espace public, cette évolution est probablement inévitable. Dans le cas particulier de la proposition de loi, on voit bien comment son dispositif constitue un puissant encouragement à la censure, puisque les opérateurs privés préféreront, dans le doute, censurer plutôt que de voir leur responsabilité mise en cause. Conclusion, en deux temps, nous assistons au remplacement de la liberté par le culte des droits et nous cherchons à recréer une forme de civilité par la répression. Il n'y a pas de civilité sans liberté. À propos de la presse, Jérôme Le Filiatre rend compte dans les pages idées de Libération d'une étude de l'Institut Montaigne qui fait état d'un fonctionnement vertical du secteur, avec en haut des journaux qui imposent l'agenda du débat public et en bas des médias périphériques ou alternatifs aux idéologies aussi disparates que leur niveau de rigueur journalistique et qui s'affirment en s'opposant au premier. Le résultat est une forme d'entre-soi au carré. Les grands médias se citent les uns les autres sans accorder plus d'intérêt aux petits, lesquels ne se construisent et n'existent que par la confrontation aux premiers. Mais, relève le journaliste, en accordant si peu d'attention à ses satellites, donc aux revendications et thématiques politiques qu'il tente d'imposer, l'élite médiatique est susceptible de passer à côté de préoccupations pourtant bien réelles et d'alimenter au sein de la population un soupçon de déconnexion. À terme, le risque, avertit l'étude, est celui d'un détournement du public de ces médias jugés trop institutionnels et de leur fossilisation. Un exemple récent l'illustre parfaitement. Les médias se sont intéressés tardivement et se sont trouvés débordés par le mouvement des Gilets jaunes, ce qui n'a fait qu'accroître leur méfiance envers la presse. Ils se sont dès lors rabattus sur des médias comme RT France, le site russe financé par Moscou, qui a beaucoup progressé en audience depuis le début de la crise. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la contestation à Hong Kong.
Oui, encore une journée à suspense à Hong Kong avec un ultimatum de manifestants à l'exécutif pour qu'il retire définitivement son projet de loi d'extradition. Et semaine difficile pour la chef de l'exécutif Carrie Lam qui a dû suspendre le projet de loi qui risque sa place avec elle les pro-Pékin qui font profil bas. Pour autant, le Parti communiste et Xi Jinping ont-ils vraiment plié? Eh bien, on voit ça avec vous, Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone en direct depuis Hong Kong. Vous y êtes le directeur du département de sciences politiques de l'université Baptiste, auteur bien sûr de Demain la Chine, démocratie ou dictature chez Gallimard. Alors, je résume la situation. 10 jours de mobilisation, 3 manifestations massives, l'exécutif qui a finalement reculé dimanche en annonçant la suspension du projet de loi d'extradition controversé. Carrie Lam s'est excusé, cette chef de l'exécutif. Cependant, une partie des manifestations demande le retrait. Selon vous, l'exécutif a cédé ou temporisé?
Je crois que là, l'exécutif a clairement cédé. Alors évidemment, le projet de loi sur l'extradition est seulement suspendu, hein, et pas véritablement retiré, comme le demandent certains manifestants. Mais il est suspendu sine die. Il y a peu de chances qu'avant la fin de son mandat en 2022, Carrie Lam, s'il reste encore en fonction hein, jusque-là, puisse à nouveau le transférer au Parlement et le faire adopter. Donc c'est une victoire évidente pour la société de Hong Kong, pour tous ceux qui sont descendus, comme vous le dites, 3 fois dans la rue. Il y avait une manifestation prévue pour dimanche prochain, mais je pense qu'elle a été finalement suspendue et que la grande manifestation qui rassemblera tous les campants des pan-démocrate favorable à la démocratisation de Hong Kong se réunira à nouveau le 1er juillet, jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997.
Oui, donc lundi prochain. Alors, victoire pour la société de Hong Kong, défaite pour qui? Est-ce que c'est faux de dire que les pro-Pékin à Hong Kong, donc majoritaires au Parlement, agissent sur ordre de Pékin? On sait qu'il y a eu une rencontre, par exemple, entre le vice-premier ministre Han Cheng et Carrie Lam le 14, et ce qui a fait penser à certains que Pékin aurait ordonner le retrait à l'exécutif.
Oui, rien ne se fait ici à Hong Kong, tout au moins au sein du gouvernement, sans l'aval de Pékin. Pékin, d'abord, a un bureau chargé de Hong Kong et Macao au sein de son gouvernement central, mais il a aussi un bureau de liaison qui est situé à Hong Kong même et qui est en relation constante avec le gouvernement de Hong Kong. Donc rien ne se fait sans l'aval de ce bureau de liaison qui est l'antenne de Pékin sur le territoire. Donc la coordination est permanente et toutes les personnalités pro-establishment d'un Hong Kong s'exprime en général avec l'aval de Pékin ou en coordination avec le gouvernement central.
Et alors pour ce qui est de la société hongkongaise, peut-être c'est ça qui est le plus intéressant, c'est le détail de ces manifestants. À quoi selon vous est-ce que c'est heurté Pékin? Est-ce que c'est la continuation de ce mouvement des parapluies qui était quand même majoritairement étudiant en 2014, pro-démocrate, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus large? Pour l'instant, on voit que c'est les étudiants qui ont lancé l'ultimatum pour le retrait.
Alors, les étudiants et la jeunesse sont à l'avant de ce mouvement et le guident véritablement depuis la première manifestation le dimanche 9 juin. Mais ce mouvement est bien plus large puisqu'il a rassemblé 1 million de personnes le 9 juin et environ 2 millions de Hongkongais le 16 juin, ce qui veut dire que vous avez pratiquement un Hongkongais sur 3, 30% de la population qui est descendue dans la rue. C'est comme si en France vous aviez 20 millions de personnes dans les rues. C'est sans précédent, extraordinaire. Et ce que ça montre surtout, c'est que ce projet d'extradition est encore plus dangereux que la fausse proposition de démocratisation avancée par Pékin en 2014 et qui avait provoqué le mouvement des parapluies. Là, c'était vraiment une atteinte à l'ADN de Hong Kong. Une société libérale attachée aux droits de l'homme, aux garanties judiciaires, à l'indépendance des tribunaux et aux libertés publiques. Même si le territoire n'est pas complètement démocratique, il ne le sera jamais tant que vous avez un parti communiste qui préside aux destinées de la Chine, le territoire reste attaché à cette culture politique libérale et continuera de la défendre bec et ongles. Et c'est ce qu'on a pu voir ces 10 derniers jours.
Alors, culture politique libérale, justement, on voit effectivement, il y a un ensemble de secteurs de la société, ce qu'on appelle les netizens, les citoyens en ligne, des pro-démocrates, des chrétiens également. Ou alors, est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance d'une sorte de nationalisme hongkongais là, parce qu'il y avait déjà eu des épisodes de crispation, on pourrait dire, civico-identitaire, comme par exemple la révolte des boulettes en 2016, les boulettes de poisson. Mais là, on assiste à quelque chose qui est plus fort quand même.
Oui, alors il faut se méfier du mot nationalisme. Je pense qu'il est certain que depuis le mouvement des parapluies, vous avez une montée des sentiments localistes et même d'un courant indépendantiste à Hong Kong qui reste, je pense, minoritaire. D'après les derniers sondages d'opinion, environ 40% des Hongkongais se sentent uniquement Hongkongais et donc pas chinois. C'est donc une nouvelle identité, comme vous l'indiquez, exclusive. Mais il reste une majorité de Hongkongais qui ont une double identité, c'est-à-dire à la fois hongkongaise et chinoise. Ils sont chinois, je dirais, de manière différente des Chinois de Chine continentale. Un petit peu, toute proportion gardée, comme les Taïwanais. On parle chinois, mais sont aussi attachés à la démocratie et à leur identité insulaire. Donc, à Hong Kong, je crois que ce qui va rester, et ce qui restera dans les années qui viennent, c'est une identité beaucoup plus marquée, culturelle, mais aussi politique, parce que rassemble les gens autour de valeurs politiques qui sont des valeurs démocratiques. Et c'est ça qui fait la différence des Chinois de Hong Kong, des Chinois de Chine continentale, au moins de la plupart des Chinois de Chine continentale.
Et avec, vous l'avez souligné, quelques partis ou mouvements, disons, localistes qui sont nés il y a quelques temps, le HKNP, Parti National, par exemple. Alors, est-ce que c'est pas ça le coup politique, on pourrait dire, le plus important pour Xi Jinping et sa volonté, disons, d'unité, lui qui a beaucoup insisté à de nombreuses reprises sur l'unité entre la Chine continentale et puis ses régions autonomes.
Effectivement, pour le Parti communiste, c'est une défaite cinglante, je dirais. Parce que il est défié sur son propre territoire par une société qui est attachée à d'autres valeurs politiques que le Parti communiste, à un moment où, justement, Xi Jinping essaie de renforcer l'emprise du parti sur tous les secteurs et de la société en Chine continentale. Donc le fossé, si vous voulez, entre la Chine et Hong Kong se creuse. À un moment où la Chine connaît un ralentissement économique, des problèmes sociaux, des problèmes assez importants avec les États-Unis autour des questions commerciales. Et donc, la marge de manœuvre de Xi Jinping est relativement étroite pour ce qui concerne Hong Kong. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contre-coups et une volonté de vengeance de la part du Parti communiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, leur marge de manœuvre est limitée, que la société hongkongaise reste très mobilisée et donc capable de résister à toute emprise supplémentaire de Pékin sur le territoire.
Et alors, à votre avis, combien l'exécutif hongkongais et puis peut-être Pékin vont-ils devoir céder? Il y a la question des accusations d'émeutes qu'il faudrait lever contre les manifestants. Il y a la question des violences policières. Et puis il y a la question de l'avenir de ce projet et de Carrie Lam elle-même.
Oui, alors c'est autant de questions qui restent sans solution aujourd'hui. Ce que j'observe, c'est quand même de la part du gouvernement une grande prudence. Ils ont remis à plus tard la discussion du projet de loi sur l'hymne national, ce qui est important parce que déjà ce projet de loi criminalisait toute atteinte ou toute injure à l'hymne national de la Chine populaire, auquel les gens de Hong Kong s'identifient difficilement. Donc ça a été reporté à l'automne. C'était une volonté aussi de calmer le jeu et surtout de montrer qu'ils restent encore en phase avec la société. Donc ils vont commencer à parler à la jeunesse et modifier une partie de leur modus operandi. Mais enfin, je pense que malheureusement pour Carrie Lam, sa confiance, la confiance que peut avoir la société dans son travail, dans son rôle politique, c'est définitivement est définitivement atteinte.
Bon, et dernier petit point, certains analystes ont vu dans cette situation, disons, un présage funeste pour le rapport de force entre Xi Jinping et Taïwan, à qui il avait proposé ce modèle-là de un pays, deux systèmes à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes d'accord? Autant de points gagnés pour Tsai Ing-wen à Taïwan.
Oui, alors en tout cas, à court terme, oui. Il faut voir un peu comment les choses évolueront à Taïwan, parce que les questions économiques restent importantes pour la campagne électorale. Mais là, aujourd'hui, il est clair que Tsai Ing-wen part avec une longueur d'avance pour l'élection présidentielle de janvier prochain.
Bon, écoutez, ce sera autant de questions passionnantes à suivre. Et merci beaucoup pour vos explications en direct depuis Hong Kong. Jean-Pierre Cabestan, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste et auteur de « Demain la Chine ». Démocratie ou dictature, c'était publié chez Gallimard en 2018. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Narcisse n'est pas égoïste, un livre de Fabrice Midal. On le croyait égoïste, trop amoureux de lui-même, c'est un malentendu. Narcisse est le symbole de la vie, de la joie et de l'innocence. Dans cette enquête stupéfiante, Fabrice Midal revisite l'histoire d'un mythe dont notre époque a tant besoin. Narcisse n'est pas égoïste, de Fabrice Midal, un livre France Culture.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Cette semaine dans la méthode scientifique, on parle beaucoup des GAFAM, beaucoup moins des BATX. À quoi ressemble l'Internet vu de Chine? Que sont les symptômes silencieux de la sclérose en plaques? Cette maladie auto-immune qui touche plus de 2 millions de personnes dans le monde. Près de 90% des zones humides sur la planète ont disparu. Comment préserver celles qui subsistent? Et enfin, pilule bleue ou pilule rouge, déjà 20 ans que Néo a plongé dans la matrice.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
À 6h57 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver les matins présentés par Guillaume Erner, bonjour.
Et oui, ça je le savais. Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors, l'humanité est généreuse aussi puisqu'il y a deux sortes d'humains.
Oui, deux sortes d'humains. Alors, la première catégorie d'humains sort d'un sex shop avec un sac plastique et la seconde catégorie n'hésite pas à utiliser un sac plastique pour porter les emplettes, mais lorsqu'elle sort d'un sex shop, elle y renonce. Alors vous allez me dire, bon, il existe aussi une troisième catégorie d'humains qui ne va pas dans les sex shops, mais on va pas tout compliquer. Parce qu'elle recourt par exemple à ses achats d'articles coquins sur Internet. Celle-là, je vous propose de la mettre de côté. Alors, en réalité, l'expérience que je veux vous présenter n'a à peu près rien à voir avec l'achat de différents produits au sex shop. Elle a été menée par un commerce comme il faut, rassurez-vous Xavier, de Vancouver, une noble bourgade du Canada. Et lequel commerce était désireux de diminuer la consommation de sacs plastiques de nos contemporains, parce que je ne sais pas si vous savez que le sex shop, vous avez le droit d'y aller, Xavier, mais en tout cas, les sacs plastiques, ça pollue. Par conséquent, ce commerce fort respectable s'est proposé de distribuer gratuitement des sacs plastiques, à condition que ceux qui s'en emparent acceptent de se balader dans les rues de la ville avec un sac plastique où il était écrit « Best sex shop in town », ce qui veut dire à peu près « meilleur sex shop de la ville ». Alors comme vous êtes un auditeur attentif de France Culture, vous reconnaissez là la fameuse théorie du nudge, théorisée notamment par Robert Thaler, l'un des prix Nobel d'économie, une théorie qui consiste à lancer des incitations ou bien des désincitations aux individus pour qu'ils agissent moralement. qu'ils prennent par exemple moins de frites à la cantine ou qu'ils utilisent moins de sacs plastiques. Oui, mais voilà, même si cette théorie du nudge a donné lieu à un prix Nobel, elle m'a toujours laissé dubitatif. En effet, les incitations, c'est très bien, mais dans le domaine de l'humain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Ici, ce magasin désireux de limiter la consommation de plastique s'est retrouvé face à un phénomène complètement inattendu. Ces sacs plastiques sont devenus incroyablement mode. Autrement dit, au lieu de ne pas vouloir s'afficher avec ce type de publicité, la ville de Vancouver s'est arrachée les sacs plastiques de sex shop. Moralité ? Eh ben, il n'y en a pas, et c'est la raison pour laquelle le nudge est une théorie astucieuse, mais probablement fort hasardeuse.